RNV Podcast. 8h-10h sur RNV. On va pas s'énerver.
Allez, pour la suite de cette matinale, on va parler électro. Je sais, c'est pas commun sur RNV, mais ça nous arrive de temps en temps quand même. Et on va parler d'un collectif qui s'appelle Cycloperon, et plus spécifiquement d'un projet qui s'appelle Cinépop au sein de ce collectif. Et pour ce faire, je suis avec Cinépop, Romain Ducommun. Salut.
Salut.
Alors toi, Cycloperon, déjà, t'es plus ou moins à la base du projet déjà.
Oui, exactement. Donc on était 5 à avoir fondé le collectif en 2000 à la Chaux-de-Fonds. Donc on a évidemment après suivi jusqu'à maintenant, c'est devenu une association aussi à un moment donné, pour des raisons de fond, mais disons ça reste un collectif artistique dans l'âme.
Bientôt 5 ans d'aventure du coup.
Effectivement.
Et puis Cinépop est tout aussi ancien ou un peu plus récent?
Dès le début, j'avais un projet solo aussi pour ma production musique électronique. J'ai changé plusieurs fois de pseudonyme, mais je dirais Cinépop, ça fait en tout cas 10 ans que je le construis.
Avec différentes choses qui sont sorties, notamment il y a un album qui est paru en 2021 qui s'appelait The Crystal Age, et puis tu arrives avec un nouveau projet qui s'appelle A Journey Underground, alors un voyage en sous-sol, hein, si je traduis ça de façon synthétique.
C'est ça, exactement, c'est vrai, alors c'est toujours un peu comme ça, on produit des morceaux, puis après on a une certaine homogénéité, une certaine continuité. Puis après, moi, j'ai beaucoup de plaisir généralement à essayer de raconter une histoire dans mes albums. C'est-à-dire que, comme le précédent, je cherche une thématique finalement qui s'y prête bien. Et puis après, la cover de l'album, en fait, c'est une photo que j'ai fait moi. Et puis, c'est ce qui a lancé la narration de l'album, en fait. Donc, on voit ma fille de dos qui se dirige vers une espèce d'entrée de mine, probablement. C'est une photo en Normandie. Et à partir de là, j'ai développé la narration de l'album, en fait. J'ai mis les morceaux dans l'ordre que je voulais. Et j'ai créé les titres des morceaux dans cette optique-là.
Mais d'ailleurs, ça se voit sur la structure de cet album aussi, puisqu'il compte une intro, trois interstices et puis une outro. Donc, est-ce qu'il doit s'écouter comme une histoire ou est-ce qu'on peut écouter les 10 titres qui restent au milieu de façon aléatoire?
Alors, bien sûr, à l'ère des plateformes musicales, des playlists, des lectures aléatoires, c'est toujours un petit peu décalé de proposer un album vraiment suivi. Alors, l'idéal, ça serait vraiment de l'écouter dans l'ordre non aléatoire. Mais je conçois bien qu'il y a aussi des morceaux qui sont un tout petit peu plus accessibles que d'autres, que peut-être certaines personnes mettront dans leur playlist, indépendamment de toute la structure. Mais oui, effectivement, il est conçu pour être, si possible, écouté de A à Z, sans mode aléatoire.
Moi, j'ai trouvé qu'il avait une ambiance assez sombre, assez introspective. Est-ce qu'il a été imaginé comme ça ou...
C'est vrai que ma production de base, c'est plutôt de la techno, c'est plus dansant. Mais j'ai toujours eu ce projet annexe où en fait, je faisais plutôt de la musique synthwave, c'est-à-dire sans... Enfin, il peut y avoir de la rythmique, mais là, en l'occurrence, c'était tous des morceaux que j'ai fait sans rythmique. C'est vrai que mon univers est plutôt quand même un peu mélancolique ou un peu sombre. C'est assez rare que je fasse des trucs extrêmement festifs. Et puis là, donc c'est vrai que c'est des morceaux que j'ai composés, on va dire, ces 2-3 dernières années.
Okay,
c'est pas quelque chose que j'ai produit en un week-end ou en une semaine. Donc après, je les ai effectivement reconstruits, recomposés et remixés pour qu'ils soient écoutables, on va dire, en format album. Et puis oui, effectivement, cette narration vient finalement d'un voyage souterrain, mais c'est aussi lié un peu à ma situation personnelle depuis le début de l'année. Donc il y a des liens, effectivement. Certains morceaux précèdent ce qui s'est passé, mais disons que dans l'absolu, c'est cohérent.
Donc il y a quand même quelque chose qui a été, on va dire, inspiré d'une situation compliquée.
Voilà, exactement. C'est ça. C'est en l'occurrence une rupture conjugale qui fait que... Alors l'album suit un petit peu de façon allégorique ce cheminement du deuil jusqu'à la lumière.
Et est-ce que, de manière générale, en fait, tu te laisses influencer par ce qui t'arrive? On l'a dit, 25 ans de musique, c'est pas la première fois que tu produis quelque chose. De règle générale, c'est les aléas de la vie qui t'inspirent ou tu vas te laisser inspirer par plein de choses différentes finalement?
Alors non, pas nécessairement. Là, c'était une situation un peu particulière dans ma vie, mais non, c'est...
On te le souhaite, que ça arrive pas tous les jours.
Totalement.
On s'en passe de ce genre de situation.
Bien entendu. Oui, alors non, j'ai pas de règles, en fait. Je remarque aussi beaucoup que je suis influencé par les choses que j'écoute au moment où je les écoute. Donc évidemment, mes goûts évoluent aussi au fil des années. Et en fait, alors, je vais pas parler pour toutes les personnes qui produisent de la musique électronique, mais mine de rien, le matériel qu'on a influence aussi beaucoup la production qu'on a. En tout cas, c'est mon cas. Peut-être certaines personnes suivent une ligne ultra stricte toute leur vie. Moi, j'ai tendance des fois un peu à évoluer aussi en fonction de mon setup du moment. au niveau machine électronique.
En musique électronique, on a cette vision du DJ qui va animer une soirée, etc., etc. Bah, évidemment, en production, c'est un peu différent. Est-ce que toutefois, quand tu proposes des sets live, tu te laisses une certaine marge d'improvisation ou comment ça se passe?
Alors, disons, il y a plusieurs possibilités. Certaines personnes enregistrent leur live, si vous voulez, de A à Z. En fait, en gros, ils ont juste à faire le mixage. Mm-hmm. Tandis que moi, comme ça fait quand même 25 ans que je fais du live, à l'époque, on n'utilisait pas tellement les ordinateurs. Donc, on était vraiment dépendant de séquenceurs mm-hmm. où il fallait vraiment lancer les pistes, changer les patterns, etc. Et finalement, bah, dans notre collectif, moi compris, on a gardé un peu cette philosophie. C'est-à-dire que généralement, on fait nos lives. On a nos morceaux qui sont enchaînés en français dans lesquels on va les jouer. Mais par contre, après, il y a une grande marge de manœuvre dans l'enchaînement des morceaux, dans la coupure, couper les pistes, mettre des effets, des choses comme ça. Donc, chaque live est complètement différent du précédent, excepté l'ordre des morceaux, je dirais.
Du live, on va en avoir très, très vite avec une présence de ta part à l'Amalgame le 16 décembre prochain. Mais ce ne sera pas pour faire la promotion de cet album, assez paradoxalement, mais pour un ciné-concert, puisque tu vas être là dans le cadre d'une diffusion du Ballon Rouge, un film d'Albert Lamorisse sorti en 1956. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il a mis en scène son fils Pascal, qui avait 5 ans dans ce film-là. Comment t'es arrivé sur ce projet ?
Donc c'est vrai qu'on a chacun nos projets personnels dans le collectif, mais disons avec Yann Gauthier, donc un autre musicien du collectif, mm-hmm. on fait depuis, je dirais, bientôt 15 ans, je pense, des ciné-concerts. Donc en fait, on sonorise des films en live, bien sûr. Alors bien, là aussi, c'est des morceaux qui sont déjà préenregistrés. On joue très rarement des choses en live, vraiment live.
Ouais.
Et puis, à partir de là, en fait, on en a fait plusieurs et on a fait aussi des films parlants. On a fait ouais. beaucoup de films muets, mais des films parlants aussi. Et c'est vrai que le Ballon Rouge, c'est notre dernier projet en date qu'on a développé l'hiver passé et qu'on a présenté une première fois au cave du Manoir à Martigny-Spray. Mm-hmm.
Mais donc, du coup, c'est pas dans le cadre du projet Cinépop ?
Non, alors non, effectivement, bien sûr, il y a des liens au niveau musical et au niveau des ambiances. Mais là,
par
c'est
la force
vraiment,
des choses, puisque tu en fais partie.
Bien entendu, mais ouais. là, vraiment, c'est des projets annexes. On en a plusieurs en cours. On a Stalker, on a deux, trois films. Soleil Vert aussi, par exemple, qu'on sonorise, qui sont toujours actifs, donc on propose, on les joue un peu moins maintenant. Mais oui, c'est effectivement un projet annexe qu'on fait, beaucoup de ciné-concerts. En fait, c'est principalement ça qu'on fait en live au cours de l'année.
Mm-hmm. Comment on sonorise, finalement, on resonorise un film ? J'imagine qu'il a déjà été sonorisé une première fois. Je pense bien que la version de base du film n'est pas totalement insonore. Est-ce que l'idée, c'est de créer des ambiances, des strates ? Comment ça se passe, grosso modo ?
Donc, alors bon, il y a évidemment plusieurs approches possibles. Alors, les films muets, donc là, le principe est relativement simple. Donc, on coupe la BO d'origine, généralement, donc la musique qui est proposée avec le film de base.
Mm-hmm.
Pour les films parlants, c'est un petit peu plus compliqué. On choisit généralement des films où il y a peu de musique originale. Sinon, c'est vraiment compliqué. On doit couper quasiment tout le temps. Et en fait, quand on avait joué Stalker, qui est un film parlant, la première fois qu'on l'avait joué à la Casa Choc, les gens nous avaient reproché, en fait, de ne pas mettre assez fort les voix.
Okay.
Ça, c'est une critique qu'on a tout de suite pris en compte, parce qu'on s'est rendu compte que même que le film était en russe sous-titré, les gens avaient besoin des voix pour les émotions qui sont transmises. Et à partir de là, on a été très très vigilants sur l'équilibre qu'on trouve entre les voix, la musique originale qu'on essaye de diminuer au maximum quand il y en a, et nos parties musicales qui viennent se superposer au son d'origine. C'est un travail d'équilibriste qui peut être assez compliqué, mais globalement, maintenant, on commence à voir certains trucs qui permettent, il me semble, de travailler assez bien.
Est-ce que ça change totalement le... Parce qu'on sait que la musique a évidemment une importance qui est capitale sur un film. Est-ce que ça peut changer l'ambiance générale du film, le rendre, par exemple, plus stressant, flippant ou plus noir ou que sais-je ?
Alors nous, c'est vrai que notre philosophie, c'est d'essayer de respecter le film. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de changer l'ambiance. On a vu une fois, une soirée à Zurich, quelqu'un qui passait de la musique très glauque sur du Buster Keaton, par exemple.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est quelque chose pour laquelle on travaille pas tellement. Nous, on essaye vraiment quand même de coller aux ambiances. Ça veut dire que les parties joyeuses, on essaye de faire de la musique plutôt légère. Puis les parties plus sombres, on travaille les ambiances différemment. Donc on essaye vraiment de coller au film.
Ok, on viendra découvrir ça. Donc ce sera le 16 décembre prochain à l'Amalgame, ici à Yverdon, bien sûr. Et ce sera donc sur une mise en musique de ce Ballon Rouge d'Albert Lamorisse, film sorti en 1956. Et puis pour ce qui est de ton projet Cinépop, je rappelle que le nouvel album Journey Underground est sorti le 17 novembre dernier. Et évidemment, allez faire un tour sur cycle-opérant.ch pour en savoir plus. Il y a des informations sur Cinépop, mais aussi sur les autres projets de Cycle Opérant, évidemment. Merci Romain.
Merci.
www.radionv.ch.